Précisément 18h sur France Culture, le journal Mathilde Carillou. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. 44 enfants juifs déportés, exterminés à Auschwitz, c'était il y a 80 ans à Izieux. Emmanuel Macron leur rendait hommage cet après-midi. Dans le même temps, le Rwanda commémore le génocide des Tutsis, c'était il y a 30 ans. 800 000 personnes tuées à coups de machette à l'appel du pouvoir Hutu. Vous entendrez l'émotion des survivants présents ce dimanche à Kigali. Nous reviendrons également sur le retrait des troupes israéliennes du sud de Gaza, changement de stratégie dans le camp Netanyahou, alors que les pressions internationales se renforcent. C'était il y a tout juste 80 ans, le 6 avril 1944. 44 enfants juifs étaient emmenés par la Gestapo et déportés, puis gazés dans le camp d'Auschwitz. La rafle a eu lieu à la maison d'Izieux, devenue après ça le mémorial des enfants juifs exterminés. C'est là-bas que s'est rendu Emmanuel Macron cet après-midi, deuxième étape d'une longue série de commémorations pour les 80 ans de la libération. Mathilde Imberti a suivi ce déplacement et cette rencontre avec d'anciens enfants de la colonie.
Quatre anciens d'Izieux, deux femmes, deux hommes qui sont naturellement très âgés aujourd'hui, 80 ans après la rafle, des anciens de la colonie dont Roger Vollmann, 5 ans quand il arrive ici pour échapper aux nazis. Il quittera avant le 6 avril fatidique la colonie. Elle sera liquidée, comme l'écrira froidement Klaus Barbie sur un télex. 44 enfants et 7 éducateurs raflés par la Gestapo, détenus une nuit à la prison de Montluc à Lyon, transférés à Drancy, puis Auschwitz où ils sont gazés tout de suite à leur arrivée. Emmanuel Macron chemine dans cette maison d'Izieux, écoute les témoignages, salue la foule massée à sa sortie. Dans le public, des enseignants dont Lila Biard, professeure d'histoire de collège à Mélan, près de Grenoble. Elle vient ici régulièrement avec ses élèves.
C'est un travail, ça ne vient pas tout de suite, ça se travaille pendant toute l'année avec des projets interdisciplinaires qui les amènent à réfléchir, à savoir, à connaître, à découvrir, à réfléchir sur ce qui s'est passé pour donner du sens à ce qu'on étudie en fait.
Plus loin, Antoine Hurtel, porte-drapeau pour le Rhône de l'association Le Souvenir français. Izieux, c'est le début d'une année riche en commémoration.
80 ans, ça marque vraiment un anniversaire important. C'est le début justement d'une grande série de commémorations.
Et le président Macron reviendra dans la région le 16 avril, cette fois-ci dans le Vercors, au lieu de la résistance.
Un reportage à Izieux avec Mathilde Imberti. Emmanuel Macron au cœur d'une polémique. Ce soir, le chef de l'État devait s'exprimer sur le Rwanda en ce jour de commémoration du génocide des Tutsis. Il était question d'une vidéo de déclaration sur le rôle de la France dans le massacre. Finalement, pas de vidéo pendant la cérémonie, pas plus que sur les réseaux sociaux. Le message aurait en fait été diffusé à l'UNESCO et sur une chaîne de télévision rwandaise, nous dit-on ce soir au gouvernement. Parmi les phrases qui ont fait réagir, l'idée que la France aurait pu arrêter le génocide mais n'en a pas eu la volonté. Les propos datent de jeudi soir, n'apparaissent pas dans le discours d'aujourd'hui. Un conseiller présidentiel reconnaît ce soir une erreur de communication. Sur place, à Kigali, c'est le ministre des Affaires étrangères qui représentait le président français. À ses côtés, Nicolas Sarkozy, présent à titre personnel, mais il faut dire que c'est le premier à avoir reconnu le rôle joué par la France dans les événements d'avril 1994. Nathanaël Charbonnier a suivi la cérémonie.
Il y a eu les témoignages de rescapés, il y a eu des chants, des danses, mais ce sont les discours qui étaient attendus 30 ans après les faits. Paul Kagame, le président rwandais, s'est exprimé en dernier. Les mots sont pesés et posés avec détermination. Oui, le monde a laissé tomber les Tutsis en 1994. Mais étrangement, ce n'est pas le passé qu'il semble regarder, mais le présent et l'avenir. Notamment celui qui se joue au RDC voisin, où le président voit des similitudes avec les mécanismes de 1994. D'où son message pour dire que plus jamais son peuple ne sera laissé pour mort. Tiré du passé les leçons, l'approche est reprise par Charles Michel pour l'Union européenne, qui lui fait le parallèle entre la tragédie Tutsi et l'actualité du Proche-Orient, en demandant à cette communauté internationale de ne pas être lâche à nouveau. On retiendra enfin de cette journée que malgré la normalisation des relations entre la France et le Rwanda, il reste encore du travail à faire, notamment pour juger les criminels qui se cachent encore dans notre pays.
La cérémonie et reconnaissance nécessaire pour le gouvernement rwandais, mais aussi pour les citoyens. Aujourd'hui, on ne parle plus ni de Hutu ni de Tutsi, mais le souvenir de cette fracture reste très ancré dans la mémoire des rescapés qu'a rencontré Paul Lorgerie dans la foule venue assister à la cérémonie.
Quelqu'un m'a caché, qui était Hutu, m'a caché, mais lui aussi, on l'a tué pendant le génocide, parce que il a caché les Tutsis.
Claire Naramirois était à Kigali lorsque les premiers coups de machette ont été donnés dans la capitale rwandaise. Aujourd'hui, âgée de 72 ans, elle a perdu une grande partie de sa famille il y a 30 ans. Et pour elle, il était nécessaire d'assister à cette cérémonie.
Pour moi, c'est important parce que ça m'aide à ne pas oublier les tiens qui sont morts pendant le génocide.
Dina Simijenga, 52 ans, sort elle aussi de la grande salle de la BK Arena flambant neuve où près de 5000 personnes et un parterre d'officiels venus du monde entier s'étaient rassemblés. Pour elle, qui a également perdu 10 membres de sa famille, ce souvenir des personnes assassinées a permis au Rwanda de se développer et de partir sur de nouvelles bases.
Vous savez, on vient ici pour se souvenir. Cela nous permet de nous donner du courage pour nous reconnaître en tant que Rwandais.
Et selon elle, ce devoir de souvenir a notamment permis à ses deux enfants de suivre des études et d'avoir un travail aujourd'hui.
Reportage à Kigali signé Paul Lorgerie. Pas de cessez-le-feu sans libération de tous les otages. Déclaration de Benjamin Netanyahou ce dimanche devant son cabinet de guerre. La journée a été chargée en déclarations et en mouvements autour de la bande de Gaza. Le premier ministre israélien reste ferme sur ses positions, tout comme ses ennemis du Hamas. Mais cette fois, les négociations pourraient bien aboutir. Deux délégations sont attendues ce soir au Caire. Un déblocage rapide, probablement lié à la décision de ce matin, le retrait des troupes, de la majorité des troupes israéliennes du sud de Gaza. Précision à Jérusalem avec Michel Paul.
Finalement, la délégation israélienne obtient le feu vert du cabinet de guerre et doit se rendre dès ce soir au Caire avec des prérogatives élargies pour permettre de finaliser un accord sur une trêve et sur un échange de prisonniers. L'équipe de négociateurs israéliens est dirigée par les chefs du Mossad et le Shin Bet, les services spéciaux israéliens. Ce soir, les médias ici parlent d'un certain optimisme et prévoient même un accord pour la fin du Ramadan. Dans quelques jours donc. Par ailleurs, les militaires israéliens affirment que le redéploiement des troupes à Gaza a été décidé sans aucun lien avec les pressions extérieures, mais il est clair qu'elle ouvre la voie aux négociations au Caire. La masse des troupes israéliennes a été redéployée côté israélien le long de la frontière. Un changement de stratégie. Désormais, les incursions seront ponctuelles, un peu comme cela s'est passé récemment dans le secteur de l'hôpital Al-Shifa à Gazaville. Mais les responsables israéliens restent déterminés à mener un raid de grande ampleur dans la ville de Rafah, à l'extrémité sud de la bande de Gaza.
Benjamin Netanyahou qui écarte, nous l'entendions, l'idée qu'il céderait aux pressions internes et internationales. Cependant, le Royaume-Uni souligne aujourd'hui encore que son soutien à Israël n'est pas inconditionnel. Ce sont les mots de David Cameron dans le Sunday Times qui dit attendre d'une démocratie, je cite, qu'elle respecte le droit international. Les États-Unis, de leur côté, continuent d'accentuer la pression. Correspondance à Washington avec Sébastien Paour.
La mort lundi des sept membres de l'ONG World Central Kitchen a durci le ton du président américain. Il conditionne désormais son soutien et ses armes à Israël à des mesures pour améliorer l'accès de l'aide à Gaza et protéger les humanitaires. Mais Washington est dubitatif. Le retrait de l'armée israélienne du sud de l'enclave n'est probablement qu'une mise en repos des troupes, d'après le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby. La crainte d'une offensive massive à Rafah persiste, alors que Biden souhaite surtout la libération des otages. Le patron de la CIA, Bill Burns, est de nouveau au Caire aujourd'hui pour une reprise des négociations. L'objectif est une pause dans les combats d'au moins 6 semaines pour parvenir à un échange de prisonniers. Biden est en campagne pour sa réélection en novembre et sous pression d'une partie de l'opinion qui lui reproche de ne pas assez prendre en compte le sort des Palestiniens.
Par ailleurs, les rebelles houthis du Yémen revendiquent les attaques de 3 navires ces dernières 24 heures. Un Israélien, 2 Britanniques. Depuis plusieurs mois, ce groupe, soutenu par l'Iran, attaque tous les bateaux à destination d'Israël. Ce dimanche, leur porte-parole a rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères. En Iran, justement, 4 militants écologistes devraient sortir de prison dans les jours à venir, graciés par le guide suprême Ali Khamenei. À l'occasion de la fête de fin du Ramadan et d'une amnistie qui concerne environ 2000 personnes, ils étaient incarcérés depuis 2018 pour espionnage et atteinte à la sûreté nationale. 400 000 foyers privés d'électricité dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, conséquence de nouvelles attaques de drones la nuit dernière. De son côté, la Russie affirme avoir détruit une 15aine de drones ukrainiens au-dessus de régions frontalières. Dans l'actualité française, des agriculteurs, des riverains et des défenseurs de l'environnement, tous réunis derrière la même bannière à Arles ce dimanche contre un projet de ligne à très haute tension. Les promoteurs affirment qu'il s'agit de décarboner la zone portuaire de Fos-sur-Mer, mais son tracé pose problème aux habitants. 400 ont manifesté et 24 4000 ont signé la pétition. Le temps demain est assez disparate, de la grisaille sur le nord du territoire et la façade atlantique. Un soleil voilé à l'est, plus franc sur le sud-ouest. Des températures comprises entre 10 et 21 degrés.